Question d'islam par Ghalib Bentchir. Aujourd'hui, nous parlons de l'humanitaire, avec une coloration islamique, tout comme il y a le secours catholique, le secours populaire, il y a aussi dans le paysage français le secours islamique depuis bientôt 28 ans maintenant. Et pour en parler, j'ai plaisir à recevoir son président, Rachid Lahlou. Bonjour.
Bonjour, Sidéral.
Bonjour et merci de venir. Merci de venir nous en parler, de nous donner de votre temps si précieux, puisque vous êtes extrêmement pris par cette mission. Vous présidez le CIF, le Secours Islamique France, depuis sa fondation. Nous verrons tout cela ensemble. Votre propre formation est celle d'un économiste, d'un gestionnaire, d'un fin connaisseur des arcanes de la finance. Je le dis avec beaucoup d'admiration que c'est un domaine qui m'est personnellement hermétique. Et vous aurez à nous expliquer tout cela. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette affaire de l'humanitaire et un humanitaire qui se colore d'une coloration confessionnelle? Comment présentez-vous les choses, Rachid Lahlou?
Vous savez, on dit chez nous, dit pas le hasard, mais c'est une rencontre qui n'était pas ni programmée ni calculée. D'ailleurs, mon parcours lui-même, certains disent chaotique, certains disent un petit peu mouvementé. Rien n'était comme je l'avais pensé ou je l'avais souhaité dans mon parcours. L'humanitaire à coloration musulmane, je pense que nous tous, vous, moi, nous étions bercés dès notre jeune âge dans un climat, dans un environnement où on avait vu la charité, l'entraide, le partage au quotidien dans une société musulmane. Où j'ai vu le jour le Maroc... et les autres pays musulmans, c'était le quotidien. Moi, j'ai vu mon père le pratiquer, mais vraiment au quotidien. Pour rappel, la ville où je suis né, la ville de Fès, il n'y a pas une boutique, il n'y a pas une propriétaire, ou il n'y a pas une partie qui est destinée à ce qu'on appelle le waqf, c'est-à-dire pour essayer d'apporter de l'aide, moi.
Le waqf est-on, c'est bien immobilisé, dans certains cas, quand on parle des habous, les biens de main morte.
Exact.
Pour donner aux nécessiteux, voilà. Et de bienfaisance.
Donc c'était naturel quand je voyais mon père apporter de la nourriture à des pauvres quelque part, à des occasions ou les autres. C'était notre quotidien dans les mosquées, dans les zaouias. Moi, j'ai eu la chance de naître entre Zaouia, Tijania et Moulay Idriss. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la ville de Fès.
Et la Zaouia étant une confrérie soufie.
Exact. Donc, c'était un petit peu ça. Puis après, je suis venu en France pour les études. Et en France, il y a cette habitude humanitaire, mais que je ne connaissais pas vraiment. Je l'ai connu après. Mais nous, on était confrontés à des conflits. Celui le plus frappant qui nous a tous touchés, tous en tant qu'étudiants musulmans en France, etc., c'était le conflit d'Afghanistan. Se faisaient des collectes d'une manière ou d'une autre dans pas mal de lieux de culte en France. Et moi, j'ai vu ça. Et puis après, on était tous en soutien à cette lutte du peuple afghan pour sa liberté, pour choisir ce qu'il voulait. Après le renversement, vous savez, etc., et après, les choses sont faites un petit peu au hasard. Moi, j'étais professeur, je suis très content du métier que j'adorais. J'enseignais du marketing et j'étais extrêmement content de ce que je faisais. Bien sûr, j'étais toujours actif dans les associations pour le bien de l'autre, spirituel, culturel,
voilà, vous
etc.
Vous étiez ému par une spiritualité.
Exactement.
Et vous aviez à cœur de venir au secours, notamment à ce moment-là, des Afghans qui souffraient.
Voilà, et donc, quelqu'un qui est venu me dire « Est-ce que je peux pas prendre en charge la mise en place d'une association humanitaire ?» Moi, humanitaire, c'était tout ce que je faisais, comme je vous ai dit. J'ai refusé catégoriquement parce que je pensais que j'étais très heureux de faire ce métier d'enseignant, que j'adore toujours, hein, que je trouve que parmi les meilleurs quand on le fait d'une manière, moi je le faisais avec mon cœur, c'était une vocation de, etc.
Parce qu'on enseigne par sa qualité d'être avant de prétendre transmettre un quelconque savoir.
Tout à fait. Et ça me permettait également de vivre une vie familiale équilibrée, ce que je n'avais pas quand j'étais étudiant, quand j'étais versé dans toute cette vie associative qui m'avait pris tout mon temps et mon énergie. Puis 6 mois après, on insistait pour prendre en charge, surtout conseillé par quelqu'un que j'adorais, qui n'est plus là aujourd'hui, que je rends hommage parce que c'est lui qui a peut-être été derrière cette tournure, je l'ai noté dans mon livre, de ma vie. Et puis j'ai accepté.
Alors, le « on » c'est qui? Pardon de vous poser la question.
Cher Faisal Maoulaoui, rahmatullahi alayhi.
C'est un Libanais.
C'est un Libanais. Son père était un maître soufi, Tariq al-Maoulawiya. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir chanter des chants soufis en privé que les gens n'ont pas vu, mais c'est un mystique caché, en quelque sorte, et qui m'a dit, oui, il faut y aller, ça fait du bien, etc. Je dis, moi, je veux pas, et moi, je suis quelqu'un qui est toujours timide, gêné, et surtout devant les ulama, moi, je suis toujours admiratif, moi, je suis toujours gêné, c'est la culture, c'est ce que m'a transmis mon père, de respecter les savants, de renom.
Les ulama, avec, voilà.
Et donc, j'ai pas pu refuser et j'ai commencé cette aventure. Voilà, un petit peu.
Bien. Alors, merci. Et ça sous-entend que l'élan de foi, de solidarité, mu par des considérations spirituelles, et n'oublions pas que le troisième pilier de ces fameux 5 piliers sur lesquels repose la pratique culturelle islamique est celui de l'aumône. Et là, vous vouliez, en plus sur incitation affectueuse et fraternelle de ce maître, donner un peu d'ordre dans ce qui est un peu, pas encore en tout cas, bien ordonné. Et donc, vous montez une association?
Alors, j'ai monté une association, loi 1901, une petite association qui se trouvait dans un local qu'on a loué de 60 mètres carrés, même pas, hein, qui faisait office de bureau, d'accueil, au fameux, comme a dit un journaliste mal intentionné, 181 boulevard Wilson, du président Wilson, mais c'est à la plaine Saint-Denis, c'est pas au 7e arrondissement.
Mais pourquoi était-il mal intentionné?
Parce qu'il a dit ils sont logés dans le fameux avenue Président Wilson, Paris. Donc dire que alors qu'on était dans un petit local 60 mètres carrés où nous avons commencé une petite association avec deux demi permanents, hein, pour l'accueil. Moi au départ j'étais bénévole avant de s'engager, etc. Et on avait commencé, je dirais heureusement ou malheureusement pour la guerre. Heureusement pour peut-être l'association, c'était au moment au déclenchement de la guerre de Bosnie, la guerre des Balkans plutôt. Oui, oui. La Bosnie est venue en deuxième temps après la Croatie. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans une aventure humanitaire qu'on n'avait pas préparée et qui nous a hissé vers le haut avec toutes les problématiques positives et négatives en même temps, tout ça.
Alors, commençons par les négatives, comme ça on finira par celles qui sont moins épineuses et plutôt positives. C'est qu'à ce moment-là, aux affaires, il y avait Charles Pasqua comme ministre de l'Intérieur, et avec ses fameuses phrases « il faut terroriser les terroristes »,« la démocratie s'arrête là où il y a la raison de l'État », etc. Et étonnamment, une activité d'ordre ou de type humanitaire était aussi suspectée de collecter de l'argent pour des activités subversives et terroristes.
Oui, je pense qu'ils savaient bien ce qu'on faisait. On est quand même dans un pays quand même bien organisé, bien dirigé, bien contrôlé. Je pense qu'il y avait deux choses graves qui se passaient à ce moment-là, même trois. Il y avait d'abord les attentats qui sont venus du métro, du RERB, etc., avec toute la problématique iranienne, si vous vous rappelez. Deuxième élément, la France de Mitterrand soutenait la Serbie. Donc ça fait des ordres que des organisations, il n'y a pas que nous, qui soutenaient un petit peu les Croates et les Bosniaques dans leur lutte d'indépendance. On soutenait les populations victimes de cette guerre. Je l'entends très bien. Et troisième élément, c'était les événements qui vont se déclencher en Algérie.
Avec les activités terroristes des GIA.
Tout à fait, tout à fait. Et cet ensemble de chekchouka, en quelque sorte, ne nous a pas facilité la tâche.
Une chekchouka étant une ratatouille.
Une ratatouille. Donc, il y avait des points d'interrogation sur ce qu'on faisait, mais on savait ce qu'on faisait. Mais on était sous contrôle, un petit peu trop contrôlé, puisque les personnes sont contrôlées. Et puis, comme vous avez dit, Pasqua, qui avait une vision assez sécuritaire à l'extrême et qui voyait que toute personne qui bougeait dans un domaine musulman, surtout indépendant, était quelque chose. Il a mis les fameux cercles, etc., et quelque chose de potentiellement dangereux. Et là, les mésaventures que j'ai connues, que j'ai racontées, jusqu'à l'arrestation, en quelque sorte, des contrôles pendant 5 ans aux frontières.
Une arrestation au Maroc ou France?
Au Maroc.
Très bien.
D'accord. Et des contrôles aux frontières qui ont duré 5 ans. Pour dire que la machine était très lourde pour s'apercevoir qu'on ne faisait que du bien. Mais bon, vous savez...
Pardonnez-moi de vous reposer encore cette question. Ça sous-entend, quand je l'ai appris, que la notion des fiches S ou blanche. C'était blanche parce que je connais pas la nuance entre les deux. Parce qu'il y avait blanche ou S12 à ce moment-là. Et alors, une fiche blanche, c'est quoi?
Alors, les fiches blanches, je ne sais pas. Moi, j'ai appris ça. J'ai écrit au président Chirac, nouvellement élu. J'ai écrit à l'organisation qui s'occupe des fichiers des personnes pour demander des explications. Parce qu'à un certain moment, c'était tellement dur que je pensais que je ne savais pas que j'étais dangereux. Il fallait que je... C'était terrible.
Et heureusement que...
J'essaye de ne pas tomber dans tout ça, mais ça m'a touché du point de vue familial. Mais
j'entends bien. Et il y avait le soutien de votre épouse
constant. Heureusement. Mes enfants étaient troublés, alors que nous, on était... de leur expliquer, c'est votre pays, vous devez l'aimer, vous devez, etc. Toute cette éducation de citoyenneté. Mais quand ils voyaient ça, ils me disent, pourquoi que ça... Est-ce que les enfants qui avaient 7 ans, 5 ans m'ont vu comme ça? C'était terrible, hein, c'était pas facile.
Et ça venait au moment, et votre conviction inébranlable, que leur patrie était la patrie de la France.
Ah, tout à fait.
Y a pas d'autre. Et à ce sujet, ils ne comprenaient pas pourquoi leur papa avait, si je puis dire, un traitement particulier.
Ils m'ont posé la question. On était une fois dans le TGV Paris-Londres avec la famille, ma femme, mes
dans
enfants.
Dans l'Eurostar. Oui.
L'Eurostar, etc. Tout d'un coup, il y a des policiers qui venaient me voir, etc. Et ils sont partis pour revenir après à l'arrivée. Ils me disaient, mon fils... l'aîné, qui est aujourd'hui pharmacien, etc., il me disait « Mais pourquoi, papa? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Mais il faut leur demander. » Et le douanier, qui est aussi accompagné du douanier, qui était très sympathique, par contre, me disait, etc., je lui dis « Mais pourquoi ça ?» Ben, j'ai répondu à mon fils « Parce que tu es musulman. » Ben, c'est la réaction d'un papa qui était outré par ça, parce que je n'avais pas d'explication. Je faisais une action humanitaire connue sur et tous les camions qui partaient scellés par la douane française. Donc il n'y avait pas de doute, parce qu'il y avait un policier une fois à la gare du Nord qui me disait « Ouais, vous transportez des armes dans les camions. » Ben, je lui dis « Si on transportait, c'est vous qui avez mis ça. » Il me dit « Comment c'est nous ?» Ben, je dis « Parce que les camions partent scellés de la douane française. » Ils sont présentés avec la marchandise. Donc nous, ils sont scellés jusqu'à l'arrivée. S'il y a quelque chose, c'est vous. Bon, pour vous dire,
Il y avait de réelles tensions.
Réelles tensions.
Cette
énorme.
Suspicion était lourde.
Exactement. On était. Et puis bon, j'ai fait même. Je raconte pas les détails. J'ai fait appel à tous les services pour dire, dites-moi s'il y a quelque chose qui n'y va pas, parce que je veux comprendre. Il y avait deux choses. Même les amis se posaient des questions pour vous dire que c'était une période assez dramatique. C'est-à-dire, les soutiens n'étaient pas nombreux. Il fallait deux choses, ou bien fermer, ou bien croire. Parce que arrêter, ça veut dire que c'est vrai que ce qu'il disait.
Oui, que vous reconnaissiez par là l'abdication ou l'abandon, que les soupçons étaient fondés.
Puis on faisait quelque chose de noble quand même, on apportait de l'aide. Et moi, je suis de nature ne pas baisser les bras, jamais. C'est une force que j'ai en interne, même si je n'ai pas c'est pas une force de nature, moi, je ne suis pas quelqu'un. Mais c'était toujours dans cette résistance à ne pas céder. Même si je suis minoritaire, et alors, L'essentiel, c'est que je crois à ce que je fais. Et cette croyance, cette ténacité continue malgré des... Moi, je me pensais, je veux dire en toute franchise, je m'attendais à chaque fois qu'on venait m'arrêter à 6 heures du matin. Vous rappeliez de cette période, elle était extrêmement... Je me rappelle que France 2 avait fait une émission en passant devant la rue, filmer la pancarte et repartir sans nous poser une question. Et le soir, on se retrouve sur Envoyé Spécial, une organisation... On a passé notre temps dans les tribunaux, attaqués, etc.
Pour diffamation.
Pour diffamation, qu'on a tout gagné. Mais pourquoi? Et les donateurs avaient peur. Les permanents, quelques-uns, ils étaient quand même assez costauds, mais quand même, on trouvait pas de soutien extérieur beaucoup. Comme je dis, mes amis se posaient, oui, on sait jamais, Rachid. Bon, ça c'est.
Donc toute cette phase, disons, de troubles, de convulsions, de difficultés, qui a duré en gros 5-6 ans, 7 ans peut-être, petit à petit, les choses vont s'aplanir. Alors comment ça se passe? Alors,
y a deux choses. D'abord, deux choses. Il y a une, je pense, je connaissais des gens qui travaillaient parce qu'il fallait lui poser la question dans les services en disant « il y a quelque chose qui se passe ». Non, on vous connaît, il n'y a aucun problème. Mais comment ça se dit? Ça se fait que la presse dit « information par je ne sais pas quoi, etc. » Non, mais la presse dit ce qu'elle veut, nous, on ne sait pas. Deuxième élément, nous, on a pris, le taureau par les cornes. Bon, il fallait arrêter tout ça. On a mis en place, alors qu'on a une petite structure, un département de communication. Moi, qui je viens de la gestion, je sais que la communication, c'est la colonne vertébrale de toute chose. Et ça, je parle de 1995, je ne parle pas d'aujourd'hui. Et on a commencé à contacter les journalistes, les politiques, tout le monde, leur expliquer qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Calmement, sachant bien qu'il fallait convaincre plutôt les journalistes que les services, puisqu'ils savaient ce qu'on faisait. On n'était pas... Et petit à petit, les choses se sont un petit peu calmées. Surtout, je dirais, c'est un événement, les gens sont étonnés, le septembre 2011, quand il y a eu cet attentat terroriste aux États-Unis, déjà, on a passé 4-5 ans à parler aux journalistes calmement, etc. On leur envoyait les documents, ce qu'on faisait sur le terrain, les politiques qui se déplaçaient, regardaient ce qu'on faisait. Donc il y avait toute une remontée d'informations sur le sérieux de l'organisation, sur sa neutralité, sur la manière de voir les choses, qu'il n'y a absolument pas de mélange de gens, qu'on faisait de l'humanitaire. Et nous, on s'est positionné, mais rapidement, énergiquement, contre ces atrocités, même si la vocation de l'organisation humanitaire n'est pas de commenter les événements, même dramatiques.
C'est de marquer sa neutralité.
Mais nous sommes une organisation musulmane. Il ne faut pas oublier que ce qui fait la lourdeur de la mission de cette organisation, c'est musulmane. J'aurais pu l'appeler autre chose, je pense que ça aurait pu passer inaperçu. Mais bon... Je ne peux pas changer la couleur de ma peau, mais la réalité, elle est là. Et donc, nous avons clairement fait ça. Et la surprise qui est énorme, c'est que les gens qui nous ont tiré dessus comme donateurs, c'était 2-3 personnes au milieu d'une vague de nouveaux donateurs. Et ça m'a conforté dans ma pensée que la majorité absolue, 99,99%, même plus que 99% des musulmans, étaient des gens... Contre ces horreurs, ils le sont toujours, mais c'est tous ces musulmans silencieux qui ne pouvaient pas nous donner parce qu'il y avait beaucoup de climat sur nous de suspicion. Mais du moment où ils ont vu que nous sommes positionnés d'une manière claire et nette contre tout ça, nos dons ont explosé. Alors que le 11 septembre, pour certains, était un moment où nous devons regresser parce que, etc. Sachant bien que notre organisation, nous appartenions dans le temps à une structure internationale, c'était devenu l'exemple aux États-Unis, etc. Alors que toutes les organisations musulmanes étaient pratiquement fermées, seule était là parce qu'elle a démontré la transparence, la neutralité, le sérieux et l'impartialité dans tout ça. Donc vraiment, c'était... voilà un petit peu le changement, c'était 2000 ans.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons d'humanitaire et surtout du Secours Islamique France avec son président Rachid Lalou. Après cette première phase, disons, d'émergence dans des conditions un peu particulières, nous arrivons dans cette deuxième partie à la consolidation, à l'apaisement et au travail sérieux. Alors, Rachid Lalou, vous qui êtes diplômé en sciences économiques, professeur, vous enseignez le marketing, vous êtes un bon connaisseur des mécanismes des finances et un bon gestionnaire. Maintenant, vous êtes à la tête de cette organisation qui grandit. Comment déjà son développement, j'allais dire physiquement, a pu se faire?
Ben, physiquement, ça se voit sur ma tête, même si les auditeurs ne le voient pas. J'avais des cheveux noirs, il n'y en a plus. Je pense que...
Il n'y en a plus, mais ceux qui sont là sont blancs. Alors.
Ce que je voulais dire, c'est que un mot de transition, vous savez, comme toute personne, il passe d'une phase d'enfance, d'adolescence, de jeunesse et de maturité. Certainement, on a fait des erreurs. Et il faut, la sagesse veut dire de profiter de ces erreurs-là pour aller de l'avant et remonter les pentes. Une très bonne communication, une transparence totale, pas de double discours. Une organisation française qui est dans le paysage humanitaire français. Moi, je suis contre le regroupement en termes d'humanitaire communautaire et dès le départ, c'est ma lecture de tout ça. Je pense que je rends hommage à la laïcité française qui m'a permis de changer de manière de réfléchir. Ce que je combattais avant, je trouve que c'est une opportunité.
Puisque vous avez évoqué ce sujet, peut-être que ceci explique en cela, mais moi je ne tire pas directement des conséquences, c'est peut-être votre proximité réelle ou supposée avec le mouvement des frères musulmans, à préciser si c'est le cas ou pas.
Je pense l'éloignement plutôt.
Ah, c'est plutôt l'éloignement.
Je pense que moi, quand je suis rentré au Secours islamique, j'ai changé totalement. C'est 180 degrés. Parce que je suis venu dans un monde réel et pas un monde idéal, supposé idéal. Je suis venu dans le réel. Les pieds. J'ai commencé avec l'éducation nationale, où j'ai vu la souffrance des jeunes issus de l'immigration qui ne trouvaient pas un stage ou un stage bidon. Donc j'étais conscient qu'il fallait faire quelque chose pour ces jeunes-là. Quand j'ai mis les pieds dans l'étrier de l'humanitaire, je me suis dit, l'humanitaire est quelque chose de prestigieux, quelque chose d'énorme. Il ne doit pas être ni manipulé, ni au service, ni dans un truc, quelque chose. Et beaucoup de gens n'ont pas compris. Mes amis et mes adversaires n'ont pas compris que cette neutralité, des gens se réfèrent à mon passé pour me combattre, ou des gens qui se disent, mais la réalité c'est que moi j'ai pris ce chemin-là, c'est que l'humanitaire doit être indépendant, totalement indépendant. Je l'ai fait avec diplomatie et douceur, peut-être c'est mon fêtera.
Donc, c'est une prime nature.
Et prime nature
si, que j'ai. Si je vous ai posé la question, là, c'est simplement pour souligner la conversion, si je puis dire, vers les idéaux de laïcité et de séparation des questions proprement religieuses et spirituelles de l'exercice politique d'hommes citoyens. Mais si vous agissez de la sorte, c'est parce qu'aussi vous êtes mû par votre lecture et votre finesse et votre sensibilité spirituelle.
Vous avez tout à fait raison. Je pense que il fallait déconstruire beaucoup de choses. Je pense que l'humanitaire m'a permis de rencontrer la vraie France, en quelque sorte, de rencontrer des gens de grande qualité, des humanistes. Et ça, c'était une richesse. On dirait qu'on construit des murs, d'accord? Partout. Je parle de musulmans parce que il faut parler de ça. Je pensais d'une manière générale. Les gens construisent des murs imaginaires parce qu'ils ne connaissent pas l'autre. Le problème, c'est qu'on pense qu'on se connaît. On pense. Parce que on se rencontre dans le métro, dans les restaurants. On peut même participer à des trucs. Mais est-ce qu'on se connaît réellement? On a eu l'exercice, je parlais plus tard dans la troisième phase, où je me suis rendu compte qu'on ne se connaît pas du tout. Et c'est ça. Et je me suis référé toujours à Hassan dans un petit exercice journalistique avec Anne Sinclair. Parce que la réalité, elle est là. Et si on se connaissait, c'est une richesse. Parce qu'on va trouver que le chemin, il est vraiment très court. Il n'y a pas grande différence, vraiment. et les convictions sont personnelles et sont cachées. La pratique elle-même, elle est de domaine privé. Mais il y a un ensemble, il y a un territoire, il y a un espace humain qui nous réunit. Et ça, c'est l'humanitaire qui m'a fait comprendre ça. Je pense que j'étais reçu par le monde humanitaire avec un peu de réserve, suspicion, c'est l'État. Mmh. Mais les autres, oui, mais c'est quoi, etc. L'islamisme et tout le mélange, ils n'ont pas tort a priori. Donc il fallait, vous savez, une organisation humanitaire, elle va s'attarder sur le programme, les projets. Nous, on avait un troisième chose, c'est toujours d'expliquer. On m'interrogeait
qui
sur l'islam.
Qui opérait votre action, oui. Votre temps.
On m'interrogeait sur l'islam, pas sur l'action. Mmh. Parce que les gens ont besoin de connaître. La réalité, quand ils vous connaissent, c'est le respect. Et nous avons une marchandise, mais elle est d'une beauté. Mais on est des mauvais commerçants. On ne sait pas faire du challenging. C'est-à-dire, on ne sait même pas la présenter. Présentoir mauvais. Et on ne sait pas les vendre parce qu'on ne sait pas vendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut à ce moment-là mettre le point sur le vendeur et pas sur le produit. Et c'est l'erreur que font les autres quand ils font l'amalgame et qu'on ne connaissent pas ce trésor.
Oui. Si je prends votre métaphore, c'est que les produits existent. D'ailleurs, les collectes se font où? Dans les mosquées, dans des lieux de culte, dans des salles quelconques, où on vous les ramène dans vos propres lieux de collecte?
Alors, la collecte se font par tous les biais de marketing, en quelque sorte, mais le plus gros vient par courrier.
D'accord.
Par courrier.
Aujourd'hui, ce sont des chèques.
Oui. Aujourd'hui, c'est pas le courrier, il a pris la deuxième place, c'est le net. Les mosquées, c'est pour être auprès des gens, pour leur dire ce qu'on fait, parce que ça reste le noyau dur de nos donateurs, c'est les gens qui fréquentent ces lieux de culte, parce que ça nous permet une visibilité. Le courrier ne le permet pas. Le net ne le permet pas. La visibilité, c'est que les gens nous voient physiquement. Et pour le faire. C'est ça. C'est tout un problème de marketing qu'il faut gérer. Beaucoup plus que de la stratégie ou du communautarisme, etc. Non, c'est tout simplement un problème de marketing.
Il y a c'est pas pour citer uniquement comme ça des versets coraniques, mais le fameux verset 30 de la sourate 3 qui dit « Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépensez ou vous faites largesse de ce que vous aimez ». Ça, les musulmans et musulmanes pieux et pieuses le comprennent, l'intériorisent. Donc, ils donnent avec générosité et sans vouloir faire ostentation de ce qu'ils donnent. Et c'est comme ça que vous avez réussi à faire converger les dons en numéraire, mais il y a aussi des dons en nature.
Alors, vous avez cité un verset sur lequel j'avais écrit un petit article, à nos donateurs, parce que pour le numéraire, il n'y a aucun souci, aucun problème, l'argent arrive, etc., et on sait faire. On reçoit dans nos dépôts, dans nos locaux, des dons en nature. Et parfois, les gens, par méconnaissance, nous envoient les choses qui vont sortir le premier du mois pour se débarrasser. Marche pas, etc., un truc, un four déjà. Et on se retrouve à beaucoup de choses qu'on jette, plus que ça. Alors que l'essence du don, c'est qu'on donne... On doit donner ce que vous aimez. Donc, c'est-à-dire, le souk islamique est quand même était un élément d'éducation de la communauté. Je vais pas trop me vanter, c'est-à-dire, parce que vous le connaissez.
Vous
le connaissez. On était peut-être le premier guichet qui répondait aux musulmans de France, 1991-92, quand les associations n'avaient pas de service, je dirais, de communication adéquat, où les gens ne posaient sur Zakat al-Fitr, sur le jeûne, sur le début
Alors,
du mois.
Alors, Zakat al-Fitr, pour expliquer, c'est lorsqu'on aura jeûné pendant le mois de Ramadan, et à l'issue de cette période de jeûne, le jeûneur, homme et femme, donne une partie qui est destinée aux nécessiteux, aux indigents, pour faire la fête.
Exact.
Finalement.
Alors, nous, on répondait aux gens, puisque ça nous intéressait, qu'ils nous appelaient jusqu'à minuit, parfois à 12 heures, où ils nous posaient des questions sur l'islam d'une manière large. Et on a découvert que les gens avaient besoin d'éducation. Parce qu'on oublie, on pensait que quand on va en 11, les musulmans de France connaissaient, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est loin de la connaissance. Et même pour le début du ramadan, ils ne trouvaient pas un saint à qui se vouer pour trouver la date du départ et de la fin.
Oui, et j'ai noté un point considérable dans vos écrits, dans votre ouvrage, que vous aviez mis le doigt sur cette mentalité qu'on appelle la mentalité obsidionale, c'est-à-dire qu'on est un peu assiégé, qu'on est seul à avoir raison, dépositaire de la vérité, et que la vision du monde du point de vue islamique est positive et que les autres nous en veulent en quelque sorte. Ouais. Et petit à petit, vous avez réussi à harmoniser tout cela et que l'action humanitaire s'est inscrite dans le paysage humanitaire français comme une organisation française et avec un dialogue réel avec les autres associations.
Exact. Je pense que l'action humanitaire, ce travail du terrain, le terre à terre, pied sur terre, m'a permis personnellement, avec mes amis, ceux qui nous ont suivis, à déconstruire beaucoup de choses et à revenir vraiment vers la raison. Et la raison, c'est l'islam. Donc, en quelque sorte, on était éloigné par rapport à la raison, si on peut parler ainsi. Les gens pensaient qu'on s'éloignait. Non, on se rapprochait. Et c'est ça le comble de cette... je sais pas comment on appelle, je peux l'appeler pour ne pas toucher quelqu'un. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une bulle. On pensait ce que vous avez décrit en disant que nous sommes le bien, les autres sont le mal, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous sommes des êtres humains comme les autres. Nous avons une connaissance, elle a ce qu'elle a comme réalité. Nous avons une religion à laquelle nous croyons, d'ailleurs qui nous poussait d'aller vers l'autre. Moi, si vous, j'espère la prochaine fois, je vous accueillerai dans le bureau. J'ai des versets que j'ai laissés que
je viendrai avec plaisir.
Qui sont vraiment dans la première des choses. Une anecdote parce que que j'ai raconté dans le livre la première fois qu'on a commencé le fameux couscous de l'amitié. Voilà. Et je faisais la promotion dans les mosquées. J'avais une conférence à Besançon et il y avait en face de moi des médecins d'origine syrienne qui me dit. Mais comment ça se fait que vous aidez les autres, les non-musulmans? Mais je dis, vous avez oublié le verset qui dit, nous nous nourrissons que pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire, ce don universel dont tout le monde a le droit. Et j'ai commencé à creuser.
Et ce qui est surprenant, c'est que ça émane de la part de médecins ayant fait le serment d'Hippocrate et qui doivent s'ouvrir sur le monde.
Et qui fréquentaient une mosquée. Et je connaissais ces gens qui venaient de Syrie. Quand même, c'est des gens qui ont une culture assez élevée. Et après, quand on creuse, je trouve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la guerre qu'il menait, c'était une guerre d'existence. Parce que j'essaie de la décrire avec des mots d'aujourd'hui. Imaginons la Mecque et la Médine, c'est une guerre pour les anéantir totalement. Il apprend qu'il y avait une famine qui a frappé la Mecque, etc. Et que son premier geste, c'est d'envoyer un convoi humanitaire pour sauver ces gens-là.
Et moi, en utilisant les mots d'aujourd'hui.
Donc, oui, vous avez raison. Que les gens comprennent un petit peu. Un convoi humanitaire, c'est ça. Une caravane pleine de nourriture, etc. pour sauver des âmes. Alors que ces gens-là veulent sa peau. Quand on raconte cette chose-là, qui s'est passé il y a 14 siècles, quel enseignement on peut tirer? Et donc, nous ramenons les choses au centre. Et c'est ça qui a un petit peu, beaucoup même, me rapproché des humanitaires. On est devenu une famille. Et pour terminer, peut-être on verra bien dans la troisième partie, c'est que après ce n'est pas, on n'était pas seulement adoptés, mais on était soutenus parce qu'on nous a connus sur notre vrai visage. Et notre communication, nous sommes propriétaires. Les gens pensent toujours que c'est les autres qui doivent nous dire que vous êtes beau, vous êtes merveilleux. Mais nous, on l'a jamais montré. On s'est pas bien rasé le matin, on s'est pas bien habillé avant de sortir, on s'est pas parfumé. Mais on dit qu'on est des beaux.
C'est à soi-même de se faire valoir et de se montrer sous son meilleur jour. Et donc, vous avez été non seulement adopté et soutenu, il y a une réelle amitié dans la famille, la grande famille humanitaire de France.
Exactement.
Et même par-delà, de par le monde.
Exactement. Je pense que, d'abord sur le terrain, les humanitaires sur le terrain, c'est une famille. Parce que quand on vit dans une crise, vous savez, quand on est proche de la personne qui souffre, c'est pour ça que j'invite toujours les jeunes à faire une maraude. D'aller voir ces gens-là. Vous ne pouvez pas sortir indemne. J'avais même un grand écrivain qui nous connaissait avant, qui m'a connaissé après. On a dit, vous allez faire une maraude. Il a pleuré. Parce que on ne peut pas rester
insensible, indemne devant la détresse des hommes.
Exact, exact. Et donc, quand on est sur le terrain de France, là, on est avant tout des êtres humains. On n'est pas des musulmans, on est des êtres humains. Celui du médecin du monde, de Médecins sans frontières, d'ACTED, d'handicap, de secours islamique. Avant tout, nous sommes des humains. Nous essayons d'apporter le soutien, l'aide, la bougie qu'on allume pour ces gens-là qui souffrent. Parce que ce que j'ai dit à mes amis, les gens qui souffrent réellement ont le droit de se mettre en colère, ont le droit de casser, ont le droit de protester. Nous, non, on n'a pas le droit. Parce qu'on a tout le confort, on a tout ce qu'il nous faut, on ne manque de rien. Et l'ouverture, quand on voit nous, on a 800 bénévoles aujourd'hui, que des jeunes nés en France. Parce que quand ils sont venus faire de l'action humanitaire, l'action sociale en France, et qu'ils voient les gens, ça leur fait changer beaucoup d'idées.
Alors vous avez commencé avec le conflit en Afghanistan, puis la guerre, hélas, des Balkans, puis par la suite, il y a d'autres lieux, d'autres foyers de tension qui font en sorte que les populations civiles en pâtissent. Il y a aussi des calamités dues au climat, et puis la famine en Éthiopie, au Sud-Soudan, et là aussi vous étiez présent.
Alors, nous n'avons pas travaillé en Afghanistan au début. L'organisation au niveau international, parce qu'aujourd'hui, je le soulignerai tout à l'heure, depuis 2006, nous sommes indépendants de toute structure internationale. Nous sommes devenus une structure internationale. Mais avant, nous avons travaillé dans cette mosaïque d'organisations occidentales musulmanes. Et la première sensibilité qui a vu la naissance de cette organisation en Grande-Bretagne, c'était justement la famine qui a frappé l'Éthiopie, etc. C'était l'ère de Nouméri, où les gens venaient se réfugier au Soudan, dans les alentours de Khartoum. Et c'était des images, je me rappelais, avant de commencer l'action,
les enfants rachitiques, famélique, qui ont fait
le tour du monde. Et là, le démarrage. Bien sûr, après, il y a toutes les puisque l'organisation commençait britannique, la crise qui frappait le Bangladesh continuellement, et la population, c'est parmi les pays les plus pauvres du monde. Donc l'action n'a pas commencé avec la guerre, elle a commencé avec les crises de famine, d'inondations, de tremblements de terre. Et sa première confrontation avec les victimes des conflits militaires, c'était l'ex-Yougoslavie, c'était les Balkans. C'est là qu'on a commencé, après le Kosovo, etc. Et puis après, bien sûr, on s'est développé dans des régions de conflit, comme l'Afghanistan, par exemple, c'était l'année où il y avait une sécheresse énorme qui a frappé, on avait travaillé dans le domaine de l'eau. C'était 6 mois avant la dernière guerre contre les talibans, c'est là qu'on avait commencé. Bien sûr que maintenant, vous savez, l'association, elle est pratiquement dans toutes les régions de conflit, mais les foyers de conflit maintenant sont concentrés, malheureusement, l'essentiel, pas que, puisqu'il y a en Afrique, il y a un petit peu partout, c'est dans le Moyen-Orient. Voilà. Mais nous travaillons, puisque là, pour recentrer un peu l'auditeur comprenne ce qu'on fait, nous travaillons dans des situations de guerre ou de crise humanitaire aiguë ou de catastrophes naturelles, comme tremblement de terre, etc., pour Haïti et ailleurs. Et que nous ne travaillons pas que dans les pays musulmans, je ne l'ai pas souligné, mais il faut le préciser, que notre seule chose qui nous guide vers le champ de l'action, c'est la catastrophe, c'est la crise humanitaire.
C'est l'être humain qui souffre, quel qu'il soit.
Et c'est le principe de notre conviction religieuse à souligner.
Thank you. Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui nous parlons d'humanitaire, nous parlons tout particulièrement du secours islamique France ou de France ou en France ou le secours islamique français, le SIF, et avec son président, président fondateur, Rachid Lahlou, de formation en sciences économiques. C'est un économiste et un gestionnaire et un grand connaisseur des mécanismes de la finance et notamment de la finance internationale. Peut-être que ceci explique cela avec une fibre d'homme d'une grande qualité spirituelle. Et pour cette dernière partie, nous voyons maintenant au-delà de la vitesse de croisière, l'élan et la maturité, le développement avec vous, Rachid Lahlou. D'abord, parlez-nous de l'organisation en tant que telle, de son émancipation, j'ai cru comprendre, avec the Islamic Relief. Le mot anglais renvoie au secours, à l'aide, au fait de sauver. Et donc, vous êtes devenu, vous l'avez dit, une organisation indépendante, internationale, toujours de droit français, et vous êtes multiplié.
Islamic Relief, c'était l'organisation qui nous a aidés à se faire en France. Nous étions toujours une organisation de droit français, 1901, indépendante financièrement et juridiquement. Mais on avait un lien informel pour mutualiser le travail sur le terrain. On était une petite organisation, mais on avait des ambitions. Et je pense que les gens, d'une manière générale, c'est comme une famille où le père, quand les enfants deviennent adultes, ne leur donne pas la place qu'ils méritent. Et il les considère toujours comme des enfants. Et il est très ainsi. C'est l'image. C'est vraiment l'image. Une image de paternité à l'absolu, de tout contrôler totalement. Donc, nos ambitions, on les a fait valoir. On voulait tout simplement faire évoluer cette organisation vers une structure gérée à l'image des ONG françaises, etc. Mais bon, je connaissais pas le droit britannique à ce moment-là. Et avec, nous étions le deuxième contributeur de l'organisation. Les trois principes, c'était la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. On a fait un effort énorme pour faire évoluer les choses, pour faire changer on a discuté pendant 15 ans. Il fallait être patient. C'était pas facile. Et parfois, c'était très dur à supporter. Après avoir souffert de problèmes sécuritaires en France, on souffre après avec nos amis qui ne voulaient pas nous comprendre un petit peu ou comprendre la réalité des choses, l'évolution de la vie. Et on était contraint à la fin de se séparer informellement puisqu'on a arrêté de travailler avec eux. On avait commencé à mettre en place nos missions parce que nous considérons qu'une organisation humanitaire, c'est comme le corps humain. Il y a une tête et il y a des pieds. Si on n'est pas opérationnel, on ne peut pas avoir de la crédibilité et on ne peut pas avoir d'expérience. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir rendre compte, pour pouvoir participer, pour pouvoir avoir également le soutien de notre gouvernement. Je pense que c'est légitime pour toute organisation. Nous ne contestons pas le fait qu'ils étaient britanniques, mais ils contestaient le fait qu'on soit français. C'est un peu la chose comment s'est passé. Et formellement, par un avocat interposé, puisqu'ils voulaient récupérer leur nom et leur logo. D'ailleurs, on a changé de logo et c'est beaucoup mieux, largement. Le nom, le secours islamique, n'appartient qu'au SIF, au niveau international, puisqu'il s'appelait que Islamic Relief. Donc, nous, dès le départ, on n'a pas adopté le nom anglais parce que ça ne veut rien dire pour les Français. Ça, c'est sur le verre. Au niveau organisation, c'est une organisation qui maintenant a une quinzaine de missions directement gérées par nos soins. Et on a un département de Social France et où nous essayons de participer à l'élan de générosité d'une part, mais surtout à l'effort de venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin en France. On a une vraie diversité du personnel, des programmes, etc. Nous faisons un petit peu la promotion de cette diversité, puisque nous avons dans nos rangs des gens musulmans, non-musulmans.
Voilés, c'est ça, non-voilés. Au niveau du personnel engagé et salarié, il n'y a pas nécessairement que du personnel du tout, musulman.
Du moment où ils acceptent les valeurs de l'organisation, qui sont des valeurs universelles, vous le savez très bien, on n'a aucun problème avec les valeurs humanitaires universelles. Au contraire, il y a un peu plus chez nous que ces valeurs-là. Et donc, il n'y a aucun souci sur ce plan-là. Et puis, l'organisation sur le tissu français elle a pris sa place puisque j'étais élu à deux reprises vice-président de la coordination des humanitaires français, Coordination Sud, qui regroupe 170 organisations les plus importantes des organisations humanitaires. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci.
Ce sujet, vous avez des réunions régulières, soit au Quai d'Orsay, soit ailleurs, dans les instances, notamment internationales, pour la coordination, enfin, avoir une vision de l'humanitaire national et international.
Alors, l'humanitaire français, bien sûr, c'est organisé autour d'un groupe de concertation que l'ancien ministre Bernard Kouchner a mis en place. Ce groupe de concertation, il y a une trentaine de personnalités de grandes organisations, présidents ou directeurs, et qui se réunit continuellement dans l'année pour débattre des problématiques qui touchent l'humanitaire au niveau français et au niveau international, mais également des crises qui touchent l'humanitaire. Donc c'est un lieu d'échange et de plaidoyer avec le gouvernement français. Il a participé à la mise en place de la première et la deuxième stratégie humanitaire française qui n'existait pas auparavant. Également, la concertation se fait en dehors des instances. Il y a d'autres, je vais pas tout citer pour ne pas embrouiller trop nos auditeurs, il y a beaucoup d'espaces de concertation entre les instances du gouvernement et les humanitaires. Notre président de coordination sud, Philippe Chachon, participe en tant que membre du conseil d'administration de l'AFD. L'AFD est l'Agence française de développement, c'est la Banque française de développement. Donc il y a énormément de lieux de concertation. Et puis il y a des réunions qui se font à l'Élysée, au ministère, à chaque fois qu'il y a une problématique qui touche la solidarité internationale. Pas l'humanitaire uniquement, mais le développement. Donc il y a toujours de la concertation. Il y a le Haut Conseil de développement qui s'est mis en place, où siègent des ONG françaises, etc. Il y a le mouvement associatif où nous participons. Donc il y a beaucoup. En concernant l'humanitaire, etc., nous avons cette coordination sud qui est très forte, etc., nous participons. Au niveau du secours islamique lui-même, je pense que ce qu'il avait dit à un des spécialistes avec qui nous avons travaillé pour une problématique au CIF, il a dit que le CIF est une organisation quand même assez atypique puisque dans le spectre, il n'y a pas les extrêmes.
Sous la courbe de Gauss, si je puis dire, vous n'avez pas... La cloche englobe la totalité.
Voilà. Et donc, c'est notre ligne de directive. Et on pense que c'est un exemple du bon vivre. Bon vivre ensemble. Le secours, il est également dans un petit groupe informel qui s'appelle le Vivre Ensemble, où il y a le secours catholique, où il y a Médecins du Monde, il y a ATD Carmonde, il y a cette organisation qui le regroupe et on vit. Ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'on a découvert quand même qu'on se connaissait pas. C'est là ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'à l'occasion des attentats de Paris, ça créait quand même des secousses au sein du secours islamique. Alors qu'on pensait qu'on se connaissait. Et là, c'est là la problématique qui touche notre société.
Et les tiraillements.
On a trouvé qu'on se connaissait pas. Les gens qui travaillaient dans le même espace, dans le même département, pour les mêmes programmes, musulmans et non musulmans. Et ben tout d'un coup, cette problématique les a un petit peu tiraillés parce que on se rend compte qu'on n'a pas la même notion de connaissance concernant la minute de silence, qui est quelque chose d'universel, mais que les gens ne connaissaient pas. Et il fallait expliquer ça pour que les tensions baissent, etc. Sur le positionnement, parce qu'on s'est positionné sur beaucoup de choses. Et je pense que, malheureusement, j'ai appris qu'on ne se connaissait pas.
Et là, vous avez encore remonté, aplani ces difficultés.
Bien sûr, parce qu'on a fait l'effort. On a fait l'effort de mettre en place le comité d'éthique il y a 3 ans et pour déjà essayer d'harmoniser notre connaissance en tant que musulmans de cette religion. Qu'on mette un espace commun. Parce qu'il y a ce que Cheikh Tariq nous disait,
Vous parlez de Tariq
Oubrou. Oui. Il y a l'engagement personnel religieux. Ça, c'est personnel. Mais il y a l'engagement collectif, la lecture collective du secours islamique. Et ça, on est en train d'écrire parce qu'il y a un bouquin qui va sortir, j'espère bientôt, mais énorme, sur l'explication de l'action humanitaire musulmane que les musulmans ne connaissent pas et que les autres. Nous avons le devoir de la faire connaître. C'est cette problématique de connaissance. Toujours au milieu. Mais le secours, bien sûr, il s'est développé dans la difficulté.
Oui, l'enfantement est toujours dans la douleur. Peut-être un dernier mot, si vous voulez bien, Monsieur le Président, sur vos perspectives d'avenir. Quand cet ouvrage sera publié, vous serez le bienvenu pour venir en parler, parce que nous arrivons au terme de l'émission.
Alors l'avenir pour le Secours islamique, bien sûr, c'est une organisation qui est en train de créer sa structure internationale, en train de se restructurer, puisque entre le social français qui est en train de se développer, on veut créer des structures sociales en France, partout. On est à Lyon, Marseille, partout. On veut participer quand même. Et c'est ça, nous ne devons pas être que des consommateurs. Et c'est sur ce pied-là que le Secours islamique a toujours dansé, c'est qu'on dans la production. On n'est pas dans le pleurnichage, on est dans d'apporter de l'espoir, de participer positivement. Si on veut être admis dans une société, il faut qu'on soit des gens qui produisent, qui apportent des solutions, et pas seulement de profiter du reste. Donc, notre souhait, c'est d'être un petit peu partout sur l'Hexagone pour apporter de l'aide, et dans l'Outre-mer également, c'est l'île de la Réunion. Également, nous voulons créer des structures d'insertion pour essayer d'apporter des solutions, puisque je pense qu'on avait, c'est des amis, c'est un Schubert que je salue aujourd'hui, qui nous a dit, vous avez un devoir vis-à-vis de la jeunesse, parce que vous pouvez apporter des solutions, vous, organisation humanitaire, puisque vous êtes dans la neutralité. C'est quelque chose qu'on veut développer également. Nous voulons être, c'est l'ambition, parce que quand j'avais commencé il y a 28 ans, j'ai dit à mes amis, les deux amis, qu'on voulait dans 20 ans être parmi les 10 premières organisations françaises. Je pense qu'on n'était pas loin d'avoir réalisé ça malgré tout. Hein. On aurait pu devenir plus grand si on n'avait pas les handicaps qu'on a, qui sont innés à nous. Mais nous voulons rester encore parmi les premiers. Pourquoi ? Pour aider plus les personnes. Et je remercie infiniment nos donateurs qui nous ont toujours soutenu, et même dans les moments difficiles, sachant bien que le don moyen musulman est le plus élevé.
Merci infiniment. Nous rendons hommage à ces donateurs qui, en dépit, dans certains cas, de leur propre situation précaire, mais ils font aussi preuve de largesse. Merci encore une fois, Rachid Lalou. C'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'humanitaire et du secours islamique. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Claude Niort et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
ये पाला